Pour ce sujet région, nous vous invitons à suivre un débat sur le thème de la résistance non violente en Palestine, organisé par le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité Roubaix-Tourcoing-Ouattrolo-Villeneuve-d'Ascq lors de la semaine de la solidarité internationale. Ce débat s'est déroulé en présence de Monsieur Bernard Ravenel, président de l'association France-Palestine Solidarité.
En gros, on va parler d'un sujet qui n'est à la fois qui n'est pas habituel, mais qui en même temps repose toutes les questions de la situation au Moyen-Orient, à savoir la question de la non-violence. Ça paraît comme un petit peu un paradoxe parce que la Palestine, c'est presque le lieu emblématique de la violence dans le monde, où s'exerce une violence de l'armée israélienne dans des conditions extrêmes et où parfois aussi s'exerce une contre-violence palestinienne qui, à certains moments, donc, a aussi ses conditions particulières. Tout ceci s'explique, bien entendu, pour des raisons très fondamentales, hein, c'est-à-dire que la raison principale, c'est la violence coloniale. C'est-à-dire que nous avons une situation coloniale contre laquelle le peuple palestinien essaye, par différents moyens, de se battre. Donc voilà, or, c'est en Palestine que se joue un certain nombre d'enjeux très très importants au niveau du monde, parce que je voudrais simplement évoquer, parce qu'on ne va pas en discuter longuement, mais peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Disons que pourquoi ce conflit n'arrête pas? Pourquoi finalement il est si dur? Et dans certaines mesures, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. On peut avoir au moins une explication de la situation par le contexte mondial dans lequel se trouve la Palestine. La Palestine est au milieu d'une région qui est devenue un enjeu tout à fait essentiel pour les puissances dominantes, en particulier pour les États-Unis, qui veulent garder l'accès à des sources de matières premières absolument indispensables pour le développement du système, pour le maintien du système qu'ils dominent, des matières premières énergétiques ou métalliques qui sont elles-mêmes en voie de raréfaction, ce qui veut dire qu'il y a une bataille terrible pour le contrôle. Et dans ce contexte-là, les États-Unis ont un allié très précieux qu'est Israël, et il n'est pas question d'affaiblir Israël dans cette volonté de contrôler militairement la région. Donc ça, c'est un peu l'enjeu général. Le deuxième aspect dans lequel se situe la Palestine et cette question de la violence qui domine, pas simplement en Palestine, en Irak, au Liban, etc., c'est qu'aujourd'hui, la nature de la guerre que mènent les États-Unis là-bas, que veulent mener les États-Unis ou qu'ils mèneront, ou qu'ils mènent déjà, a changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont l'impression, c'est ce que je viens un petit peu de dire, ont l'impression que dans la région, ils jouent leur survie comme système. Et que si ça ne va pas, si leurs problèmes n'arrivent pas à se résoudre là-bas comme ils le souhaitent, ils sont prêts à utiliser tous les moyens. Tous les moyens, en particulier, y compris des armes de destruction massive, y compris, ils l'ont d'ailleurs annoncé, des armes nucléaires. Donc il faut bien voir que là, nous sommes au cœur d'un problème tout à fait dramatique dans la région. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, les États-Unis comme l'Occident, que leur système à eux, le système économique, va créer des masses énormes d'insatisfaits, de gens qui n'auront pas accès au bien-être, parce que ça leur sera interdit par le régime mondial, et que ces masses énormes qui n'auront pas accès à un minimum de bien-être, eh bien évidemment, elles vont se révolter. Et que donc, il faut prévoir toute cette logique-là pour, bien sûr, la maîtriser. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que se situe la Palestine et ses enjeux un peu mondiaux, dont le peuple palestinien est un peu la victime, comment dire, involontaire, évidemment. Alors, la question que je voulais maintenant poser, c'est en Palestine même, pourquoi ça se passe aussi? Il y a une impasse politique. Une impasse politique qui fait qu'aujourd'hui, il y a une crise profonde dans le mouvement palestinien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Israël, finalement, a conquis militairement toute la Palestine. et donc a remporté une victoire militaire, si on peut dire, sur les Palestiniens. Mais en même temps, Israël, du fait qu'il conquiert tout, est en quelque sorte prisonnier de ses colonies. Il n'arrive plus à avoir une perspective politique crédible pour permettre un État palestinien dans les conditions prévues par le droit international. Donc, à cette mesure, ils sont dans une impasse aussi. Ils sont victimes du chantage colonial qu'ils ont eux-mêmes créé en créant des colonies. Les Palestiniens ayant perdu sur cette affaire sont maintenant très divisés entre, vous savez, hein, géographiquement et politiquement, Hamas, Fatah, etc. Et donc, il y a une certaine situation très dégradée dans la région, très dégradée. Et qu'est-ce que font la société palestinienne ? Elle ne peut pas se laisser sans arrêt manger, si j'ose dire, par un phénomène en particulier, par un double phénomène qui est d'ailleurs le même, à savoir la continuation de la colonisation. La colonisation continue en Palestine. On crée des nouvelles colonies. Et elle prend aussi une forme tout à fait particulière. Elle continue à travers le mur. Le mur, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas construit sur la ligne verte internationale de 67. Il est, pour, il le dira d'ailleurs Mahmoud, il est construit à l'intérieur pour l'essentiel de la Palestine. Et que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, on mange des terres. On prend de terre et de l'eau. Parce que la terre, là-bas, ça veut dire l'eau aussi, bien entendu. Donc tout ça fait que la réduction du peuple palestinien à une situation de plus en plus insupportable continue. Et les Palestiniens ne peuvent pas ne pas réagir. Mais réagir comment ? Voilà un peu la question qu'il leur est posée. Ils sont aperçus que la pratique militaire, si on peut dire, l'option militaire n'a pas marché. Et cela leur a coûté, en plus, très cher, en vue humaine, en destruction matérielle, d'infrastructures, etc. Il faut bien voir que, du côté israélien, a été menée une politique de destruction systématique des infrastructures, du système économique, des constructions, quoi, de infrastructures sociales, politiques. On a liquidé, en quelque sorte, des institutions, y compris pour à étouffer Arafat, qui de fait a été probablement empoisonné dans toute cette histoire. Donc on a l'impression que du côté israélien, on a voulu vraiment apporter une solution définitive, si on peut dire, à la question palestinienne, en lui enlevant tout son caractère politique, et en même temps en lui enlevant toute perspective de réaliser son objectif, de créer un État sur un territoire, un État continu sur un territoire qui puisse être exploité et viabilisé, si on peut dire. Et donc, les Palestiniens se sont posé la question, après l'échec militaire, de résister quand même, de continuer à résister à la construction du mur qui continue, malgré la condamnation de la Cour internationale de justice qui l'a condamné en 2004 et qui a été une condamnation approuvée par une écrasante majorité de l'ONU. Donc, il y a cette continuation de la situation et qui fait que les Palestiniens ont été obligés de résister par eux-mêmes contre le mur. Il vous expliquera comment, bien entendu. Et cela prend des formes donc non violentes, c'est-à-dire finalement le refus d'employer les armes. Et c'est très très important face à une armée israélienne qui réprime cette mobilisation-là. Pourquoi elle réprime durement même ? Il en parlera aussi Noam. C'est que les Israéliens ne veulent pas du tout que cette mobilisation soit connue au niveau international, parce qu'elle est populaire. Elle est appréciée par beaucoup de gens qui estiment que ces Palestiniens sont très courageux de se comporter de cette manière et que c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui en même temps le veulent dans des conditions tout à fait héroïques et qui finalement se proposent non pas de tuer l'ennemi mais finalement de dire à l'ennemi laissez-nous dans notre pays sans le menacer de tuer. Ça fait aussi une image qui change beaucoup la perspective du Palestinien dans le monde. Vous savez, on a longtemps préparé le Palestinien, présenté le Palestinien comme le terroriste de service. Hein. Cette image-là est liquidée par la mobilisation non-violente populaire. On ne peut plus dire que les Palestiniens sont des terroristes affreux, etc., etc. Et maintenant, les Palestiniens aussi ont comme pratique de médiatiser leur lutte. C'est-à-dire, ils filment, ils photographient, ils invitent, bien entendu aussi, des militants internationaux, parce que c'est très important qu'ils soient, en quelque sorte, aidés et même protégés par la présence des militants internationaux, et d'autre part, et surtout, des Israéliens maintenant, viennent avec eux, en particulier le groupe qui s'appelle les anarchistes contre le mur, et qui sont des jeunes Israéliens, très jeunes, entre 17 et 25 ans, qui viennent régulièrement à leurs manifestations, et qui se situent parfois en interposition. Et ça, c'est très important pour la lutte des Palestiniens, parce qu'ils se sentent un peu protégés. La répression israélienne est moins dure lorsque les Israéliens sont là, lorsqu'il y a des Israéliens en face l'armée israélienne n'a pas le mandat de tuer des Israéliens. Et donc ça permet un certain type, disons, d'atténuation. Mais quand les Israéliens sont partis, l'armée israélienne se rattrape. Donc il y a tout ça aussi qui fait partie de la réalité. Donc par rapport à cela, nous, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons d'abord de populariser cette lutte, extrêmement importante. Deuxièmement, de se solidariser avec eux en envoyant du monde sur place, parce qu'ils ont besoin de gens sur place. Et chaque année, nous envoyons des dizaines de militants. Des dizaines de militants sur place pour participer soit aux conférences qu'ils organisent chaque année à Belaïn, soit, et en même temps d'ailleurs souvent, aux manifestations. Aux manifestations parce qu'ils sont très contents qu'on soit là pour les aider et pour montrer une image internationale de leur lutte. Internationale. Hein. Et en même temps que c'est une lutte très démocratique parce qu'elle est soutenue par l'ensemble de la population.
Voilà, merci à nos amis de Radio Boomerang pour ce document. Alors, ce document a été enregistré en décembre. Nous sommes en janvier et depuis, beaucoup de choses ont évolué. On va faire l'actualité, un point d'actualité sur la situation. Peut-être donc présenter aussi notre invité. Donc, tu peux te présenter. Bonjour.
Bonjour.
Claude.
Claude, oui, Claude Dansette. Je suis le responsable de l'association médicale franco-palestinienne du Nord-Pas-de-Calais. Et à ce titre-là, nous suivons bien sûr tout ce qui se passe en Palestine. Je dois dire que depuis 20 ans que nous séjournons régulièrement là-bas, j'étais content d'entendre mon ami Bernard Ravenel faire cet exposé, parce que c'est vrai que la situation évolue toujours. Vous voyez, il parlait de non-violence. À ce moment-là, Gaza n'avait pas encore été investi par les forces israéliennes. Et là, on peut dire que le mot de violence résonne vraiment crûment à nos oreilles quand on vient de passer les 3 semaines que l'on vient de passer avec nos amis palestiniens de Gaza qui se sont fait massacrer.
Alors, quand on parle de violence, on ne peut pas évoquer ce qui sert peut-être d'alibi, c'est à toi de nous le dire, les violences du Hamas. D'abord, qu'est-ce que c'est que le Hamas ? D'où vient ce mouvement ? Par qui est-il financé, soutenu ? Et quelle est, dans ce conflit actuel, sa part d'investissement, sinon de responsabilité ?
Bien, le Hamas est un très 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 ancien mouvement. Au moment où l'OLP s'est créé, le Hamas existait. C'est un mouvement d'abord religieux qui nous vient de l'Égypte. Qui tourne autour de ce que l'on appelle les frères musulmans, qui sont des groupes radicaux islamistes. Mais on peut dire que le Hamas, pour faire très court, hein, a très 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 fortement évolué en Palestine. Et si le Hamas, qui est devenu un mouvement politique, puisque quand même il s'est présenté normalement aux élections législatives, qu'il a été élu, et même très fortement élu, puisqu'ils sont majoritaires au sein de l'Assemblée des députés, hein, l'Assemblée législative palestinienne, on oublie de le rappeler ça, que les municipalités, qu'elles soient de Cisjordanie ou de Gaza, sont majoritairement tenues par des politiques du Hamas. Donc la population a voté. Si la population a voté, sous le regard d'ailleurs des observateurs, notamment de l'Union européenne, qui avaient trouvé que tout était parfait. Tout était parfait, moi je me souviens d'Atta Jean, politique de France que j'ai rencontré là-bas, qui courait de bureau en bureau et qui nous disait « Oh, c'est merveilleux, ça se passe très bien, c'est tout à fait démocratique. » Eh bien oui, mais l'issue des élections a mis le Hamas en position très forte. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la communauté internationale, trouvant ce partenaire pas à son goût, a décidé de boycotter carrément l'ensemble de cet élu et mettre le bâton dans les roues pour que un gouvernement, par exemple, d'union nationale, puisse se mettre en place dans les territoires occupés de Palestine, c'est-à-dire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Alors ça, c'est quelque chose dont nous sommes, nous, responsables. C'est-à-dire qu'on a foutu la pagaille au sein des élections et d'un pouvoir politique qui aurait peut-être pu avancer, parce qu'on ne voulait pas reconnaître la voix du peuple palestinien. Et si le peuple palestinien a voté pour le Hamas, ils ne sont pas tous forcément en accord total avec, on va dire, la frange la plus radicale du Hamas, eh bien c'est tout bonnement et simplement parce qu'ils ne reconnaissaient plus du tout le Fatah comme capable, après la mort de Yasser Arafat, la mise en place du nouveau président Abou Mazen, ils ont reconnu, les gens ont constaté que la situation empirait de jour en jour. Toutes les réunions internationales, toutes les réunions entre Israël et l'autorité palestinienne ont toujours mené à véritablement une situation de plus en plus catastrophique. Je voudrais pour mémoire rappeler quand même que avant Gaza, il y a eu l'opération Rempart qui a été menée en 2002 par Sharon, qui est accusée de crimes de guerre, notamment à Jenin, que Naplouse, la ville jumelée avec l'île, a été complètement investie par l'armée et où il y a eu des massacres énormes, et ça continue, soit dit en passant. On en parle moins, parce que c'est tellement quotidien. Donc, il y a eu une situation où les gens ont vu que l'autorité palestinienne n'était plus une autorité. Quand Sharon est intervenu avec son opération Rempart, il a pratiqué de la même façon que ce qu'a pratiqué Israël à Gaza. Il a commencé par détruire toutes les infrastructures. L'Europe en sait quelque chose, puis ils avaient demandé le remboursement des travaux qui avaient été faits pour l'année 2000, le passage à l'année 2000. Bon, il y avait plein de travaux qui ont été subventionnés par l'Union européenne. Tout ça a été détérioré par l'armée israélienne. Donc on peut dire que, et il y a eu des massacres, il y a eu des, j'ai fait plein d'émissions ici à Radio Campus, beaucoup de gens se souviennent de tout ce que j'avais dénoncé à l'époque, puisque au retour de nos nombreux voyages, nous avons constaté, nous avons vu comment on démolissait les maisons des gens par bombardement, nous avons vu des nouveaux hôtels qui avaient été créés, qui ont été complètement anéantis. Nous avons vu les gens qui ont été blessés, puisque nous travaillons depuis 20 ans, avec un hôpital pour soins aux blessés, aux victimes de la guerre, que mène, enfin si on peut encore appeler ça une guerre d'ailleurs, je préférerais le terme de crime que celui de guerre, parce que la guerre ça oppose deux armées. Et là il ne s'agit pas d'opposer deux armées. C'est ce qui fait qu'on parle de non-violence, parce que les Palestiniens ne peuvent pas être violents. Ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens d'être violents. Et chaque fois, on parle de guerre, mais ce n'est pas une guerre. Ce sont des massacres. Alors, je voudrais revenir peut-être à ce que disait mon ami Bernard Ravenel de l'association France-Palestine Solidarité, qui disait que dans cette région-là, il est évident que tout le monde est impliqué, parce que, bien sûr, il y avait vraisemblablement des choses qui nous intéressaient. Et plus particulièrement, mais il parlait dès le début de son intervention, des matières premières, et notamment des matières énergétiques. Ça me ramène tout de suite à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je viens de trouver, hier, un document très important qui émane d'une revue qui s'appelle Global Research et qui est écrit par Michel Kosudowski en date du 8 janvier 2009. Ce document s'appelle « Guerre et gaz naturel, un l'invasion israélienne et gisement gazier au large de Gaza. Dans ce document, on apprend que Yasser Arafat, en novembre de 1999, avec l'autorité palestinienne, avait signé un accord d'exploitation gazière et pétrolière pour 25 ans avec un groupe qui s'appelle la British Gas Group et un partenaire d'Athènes. Depuis cette signature, parce qu'il y a des gisements importants au large de Gaza, et avec les élections qui ont mis en place le Hamas, il était bien évident qu'Israël, qui a des vues sur ces gisements gaziers d'une importance évaluée à 4 milliards de dollars, un accord qui était signé pour 25 ans, qui devait reverser les bénéfices à l'autorité palestinienne, eh bien, n'a jamais pu voir le jour parce que Israël s'y est opposé. Et l'invasion que nous venons de connaître, et le drame, les crimes de guerre qui ont été commis pendant ces 3 semaines, font partie également de la volonté de vouloir mettre la main sur ces gisements gaziers. D'ailleurs, la France a vite compris qu'il avait intérêt à aller mettre son nez dans l'affaire. Et pour ne parler que de celui-là, mais uniquement de celui-là, on pourra approfondir après, dans le détail, toutes ces choses-là. Vous avez entendu que la dernière réunion de Sharm el-Sheikh avec le président égyptien Moubarak, la présence de M. Sarkozy, et aussi en tant que président de la République, rappelons-nous, puisqu'il avait à côté de lui M. Brown, anglais, l'Espagne, etc., etc., de l'Europe, mais pas tous les membres de l'Europe. Et d'ailleurs, le représentant de l'Europe, le président en exercice tchèque, n'a pas eu tellement voix au chapitre. Eh bien, ils sont tombés d'accord. Il y avait un gros problème, paraît-il, d'armement de cette bande de Gaza, d'armement du Hamas. Très très gros problème, paraît-il, et de contrebande d'armes. Bon, je dis en passant, on sait tous que la contrebande d'armes existe et existera toujours, bien couverte par l'ensemble de nos gouvernements. Alors combien de trafic d'armes la France a trompé en Afrique et ailleurs dans le monde. Là, ils se sont mis d'accord pour que l'Espagne, la Grande-Bretagne, comme par hasard, qui est signataire de cet accord d'exploitation, et la France vont surveiller par bateau les côtes de Gaza. Tiens, comme par hasard. Là où il y a possibilité d'agir et de forer pour développer l'exploitation de ce gaz, comme par hasard. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit de vouloir s'élever contre un terrorisme international dont une des branches serait le Hamas. D'abord, quand on voit comment s'exprime la population de Gaza un peu plus librement depuis 2 jours. Combien de personnes ont pu témoigner et dire « Oui, moi je crois, je suis un croyant. Oui, je crois en la religion développée par le Hamas. Mais aussi, j'ai voté Hamas parce que le Fatah n'a jamais fait ce qu'il fallait, l'autorité palestinienne n'a jamais pu faire ce qu'elle fallait. » Et donc, on a essayé de faire un changement. Mais maintenant, on se rend compte que vous, de l'extérieur, vous nous empêchez de nous développer correctement, politiquement. et vous envoyez, vous êtes d'accord, pour que Israël nous bombarde, nous assassine. L'ensemble du monde occidental est responsable. Il aura fallu 3 semaines pour essayer d'arriver à ce qu'on appelle un cessez-le-feu unilatéral. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis entre deux? On a laissé massacrer une population qui était enfermée d'ailleurs dans une prison depuis 2 ans, affamée, mal soignée. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire que le Hamas sont des terroristes, ce sont des résistants qui ont malheureusement très peu, et ils ne sont pas armés comparativement à l'armée israélienne, dont, paraît-il, l'intervention était faite exclusivement pour sa sécurité. Cette nuit, je regardais un peu quelques informations internationales, et bien sûr, on parlait beaucoup de la mise en place de Barack Obama aux États-Unis. Et un des commentateurs politiques en est venu aux relations américano-israéliennes pour dire que Israël n'avait absolument rien à redouter de pour sa sécurité, parce que l'Amérique est prête, elle est à côté de lui, à côté d'Israël, et personne dans le monde n'oserait porter atteinte à la sécurité. D'ailleurs, Israël lui-même est dans une rampe pour se défendre, puisque c'est la 4e armée du monde. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir que cette population, parce que nous laissons faire, depuis 1948, après le vote de 47, il faut se rappeler que dès 48, les juifs, puisqu'ils n'étaient pas encore israéliens, se sont mis en guerre, y compris contre l'armée britannique qui était là. Et quand vous allez de Tel Aviv à Jérusalem, on honore en Israël encore les combats qui ont lieu contre l'armée britannique de 48. Il y a encore des chars britanniques qui avaient été brûlés, qui avaient été détruits, qui sont régulièrement repeints, qui ont des fleurs, qui ont des drapeaux, pour montrer que dès 48, ceci dit, il faut le rappeler, par des groupes terroristes, dans lesquels Sharon, entre autres, trempait des gens.
Claude, on va peut-être, puisque tu abordes cette période 48, rappeler l'origine de l'État d'Israël et comment la communauté internationale avait décidé, le mot est peut-être à préciser, de constituer, de donner, de récupérer des terres pour que cette, entre guillemets, colonie s'implante dans ce lieu.
Oui. On a toujours l'air de dire que c'est suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est faux. Il y avait un accord qui avait été passé avec les Anglais, bien avant la guerre de 39-45, avec les Juifs du monde, et notamment les Anglais, qui revendiquaient, à partir de, c'est vrai, de mauvais traitements qu'ils subissaient en Europe, c'est vrai, revendiquer de pouvoir s'installer quelque part entre eux.
Quand tu dis mauvais traitements, c'est un peu faible quand même.
C'est faible, mais par rapport à la Shoah, par exemple, c'était quand même faible, c'était maîtrisable, c'était traitable, on pouvait imposer un antisémitisme, comme on l'impose maintenant dans le monde, on pouvait l'imposer sans avoir à déclencher tout un... Bon, mais il y avait un autre programme là derrière, il y avait un projet sioniste. Et c'est sur ce projet sioniste que les accords se sont faits avant même la guerre. On savait pas trop où ça allait pouvoir se faire, il y en a qui ont parlé d'un coin de la Russie, il y en a d'autres qui ont parlé de l'Ouganda...
Quand tu parles d'un projet sioniste, le mot sioniste veut dire quoi?
Le mot sioniste rejoint le projet de réinstaller, de donner aux juifs croyants l'autorisation d'installer leurs croyants, appelés peuple dans la religion, sur une terre que Dieu, alors là, si tous ceux qui ont un Dieu revendiquent les morceaux de terre, on n'a pas fini, remarquez, mais enfin, revendiquent donc une terre pour accueillir leur Dieu qui va revenir. Mais bien évidemment, tout ça, comme toutes les religions, parce que moi je suis un laïc, alors là-dessus je suis assez clair, comme toutes les religions, ce ne sont que des thèses qui permettent de manipuler les populations, et bien évidemment là derrière, il y a des gens qui manipulent pour leurs propres intérêts économiques ou financiers. Et les gros barons juifs de l'époque avaient bien sûr une autre idée dans leur tête. C'était de s'installer pour pouvoir avoir une entité financière très forte et pouvoir poursuivre leur action financière dans le monde. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de la Shoah, à partir de l'Holocauste et du traitement qui a été fait à la population en Europe, dont les Juifs, à côté des communistes, à côté des tziganes et autres catégories, eh bien l'Europe, qui n'a pas beaucoup levé le petit doigt pour défendre tous ces gens-là, s'est sentie coupable. Et au lendemain de la défaite allemande, l'ONU de l'époque, qui s'appelait la Société des Nations, a donc accepté de voter la possibilité pour les peuples d'Occident, et même d'ailleurs, de créer un foyer juif. Et ils ont accepté de le faire sur la terre de Palestine. À cette époque-là, d'ailleurs, les juifs qui partaient là-bas, on leur disait qu'ils partaient sur une terre sans peuple, alors que les Palestiniens y étaient. Et que bien avant ça, des juifs vivaient en parfaite cohabitation avec les Palestiniens qui étaient sur cette terre. Un des plus éminents, Uri Avneri, qui est né en 1922 à Berlin, avait immigré avec sa famille en 1933 en Palestine, et il a toujours vécu de façon tout à fait remarquable avec ses amis palestiniens, dont maintenant il est un des plus fervents défenseurs et pourchassé par son gouvernement. Donc, la Société des Nations et la France a joué un rôle très important, malheureusement, dans cette histoire, puisqu'elle ne voulait pas voter cette résolution, et que sur des pressions énormes venues de toutes parts, finalement la France a cédé. À partir de là, eh bien, les groupes armés qui étaient déjà arrivés, les groupes terroristes constitués qui étaient sur la terre de Palestine, ont mis en place leur plan d'épuration ethnique, qui sont recensés d'ailleurs dans différents ouvrages qui sortent maintenant, écrits par les nouveaux historiens israéliens, des gens comme Ilan Pappé, et qui disent bien comment le plan d'épuration ethnique de l'époque, qui a mené à la Nakba en 1948, avait été écrit avant même la Deuxième Guerre mondiale. et avait été mis en place progressivement avec l'arrivée, même avant la guerre, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, de groupes armés qui avaient pour mission de mettre en place le début du plan pour finalement voler la terre aux Palestiniens. En 1948, la Nakba a pourchassé tous les Palestiniens qui se sont retrouvés dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Transjordanie qui était découpée en Cisjordanie et en Jordanie après 67, en Égypte et partout dans le monde. Il y a donc actuellement sur la bande de Gaza 1,5 million de personnes, dont une très grosse majorité sont des familles issues de la Nakba, des gens qui ont été pourchassés et qui vivent maintenant sur la terre dont la densité de population est la plus grande au monde, au mètre carré. C'est tout ça qui nous amène à ces situations. Et la France ou les autres pays européens ou les occidentaux se cantonnant derrière des condamnations purement verbales n'a jamais osé sanctionner Israël, ce bourreau que nous avons créé. Je l'ai déjà dit, il faut considérer en France Israël comme notre enfant. En votant la résolution de 1947, nous avons mis au monde, en gestation pendant un an, nous avons mis au monde en 1948 cet État. En est-il encore un, baptisé Israël, qui est devenu un monstre, qui ne respecte aucune loi internationale, aucune loi, aucune résolution, aucune convention, même les conventions de guerre. C'est dans ces conditions-là que les gens que je connais bien, pour les rencontrer très souvent, j'étais encore en Palestine au mois d'août et au mois de novembre, et j'y retourne. Dans quelques heures, je serai en Palestine pour aller soutenir ce peuple qui, parce que nous ne levons pas le petit doigt, parce que nous avons des gouvernants de tout poil, de toute étiquette politique, qui n'ont aucun courage, qui ne savent même pas simplement faire le boulot pour lequel ils sont élus. Ce sont des gens qui parlent beaucoup et qui laissent tout faire sans jamais agir.
Alors, Claude, par rapport justement à ces résolutions qui ont été prises et qui n'ont pas été suivies des faits, pas été respectées par Israël, est-ce que tu peux nous citer les principales ?
La principale, vous savez, comme maintenant, elles sont très simples. Hein. Moi, je ne parlerai pas des dernières, hein, des histoires de cessez-le-feu, parce que j'en étais jamais en vue des cessez-le-feu là-bas. Et puis savoir ce qui se passe d'ailleurs entre deux cessez-le-feu, vous savez. En Cisjordanie, pareil, d'après l'ambassadeur d'Israël en France, qui n'a pas encore été mis à la porte. Malheureusement, parce qu'encore une fois de plus, nos gouvernants n'ont aucun courage. C'est sans arrêt qu'entre deux, il y a des interventions militaires, des meurtres.
Mais tu peux nous rappeler la résolution ?
Alors, la résolution la plus importante, c'est celle de 1967. La 242 de 1967, de décembre 67, qui exige des Israéliens qu'ils quittent les territoires occupés, c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui sont des territoires reconnus internationalement comme des territoires palestiniens. L'autodétermination des Palestiniens ne peut pas se faire sous le joug d'une occupation. toute occupation ne peut mener qu'à des formes de résistance de sa population. Nous en savons quelque chose, nous, les Français. Nous avons résisté à l'occupation allemande, à tous ces crimes. Au malheur qu'elle a pu déverser, cette occupation, en Europe. Eh bien là, c'est pareil.
Sauf qu'à l'époque, la France a été aidée par les États-Unis.
Et que là, la France, derrière les États-Unis, appuie les occupants. C'est la seule différence. C'est-à-dire que nous participons à l'occupation. Parce que nous ne prenons pas nos responsabilités et que nous n'exigeons pas. Et pour le cas où ça ne pourrait pas se faire, nous ne sanctionnons pas l'occupant. C'est la seule façon véritable d'amener à des discussions correctes de paix. Que d'abord Israël reconnaisse son tort. Alors évidemment, ça va poser de gros problèmes.
Voilà, donc...
Parce que Gaza, qui a été évacué unilatéralement par Sharon, a transplanté ses colons en Cisjordanie, voire même les a doublés. Alors tous ces colons doivent partir. Et évidemment, ça pose un problème interne à Israël. Comme la politique israélienne joue avec toutes ces petites choses-là.
Donc, on va dire que pour l'instant, c'est une situation inextricable.
Pour moi, elle est extricable. Il suffit de la volonté des gouvernants de ce monde de faire reconnaître à Israël qu'il est en tort en occupant, qu'il doit, depuis 1967, s'en aller sans réserve aucune. C'est la résolution. Ça fait maintenant 41 ans de passé, et ils n'ont encore pas fait le moindre geste. Au contraire, ils grignotent encore plus de terre, ils prennent encore plus d'eau, comme le disait mon ami Ravenel. Ils prennent la marchandise, ils empêchent toute économie d'avancer normalement. Ils sabotent tout le mouvement formidable de culture des Palestiniens, qui ont des ingénieurs, qui ont des médecins, qui ont des chercheurs.
Alors, effectivement, le résultat qu'on a connu il y a quelques années, c'est que le Hamas a remporté des élections importante, et finalement, on n'a pas gagné grand-chose à cet état de fait, puisque on est passé d'une autorité palestinienne qui était censée avoir un pouvoir et le préserver et résoudre une partie de ses problèmes, à une situation où la religion s'empare un peu du problème avec toutes les dérives que l'on peut, alors je vais pas dire observer, mais qu'on peut supposer.
Moi je conseille aux gens de regarder l'émission qui est passée sur Arte hier soir et qui montrait comment le Hamas fonctionne à Gaza. On y a pu voir notamment, hein, parmi d'autres choses, des cellules femmes. Il y en a beaucoup plus que chez nos propres élus, soit dit en passant. Élus démocratiquement qui se réunissent avec leur chef de gouvernement du coin. Et qui signale, par exemple, des atteintes à la liberté de la presse, et l'élu dit, mais les responsables disent, mais on ne va pas laisser faire ça, il ne faut absolument pas laisser faire ça, la liberté de la presse, elle doit être assurée, la liberté de manifester. Il y a des gens qui font leur prière devant les mosquées parce que il trouve que le discours des prêches à l'intérieur de la mosquée est un peu trop politisé, soutient trop le Hamas. Alors comme ils sont dans l'opposition, ça veut dire qu'il y en a une d'opposition, hein. Ça veut dire qu'il y en a une d'opposition, même à Gaza. Même à Gaza. Même après quelques affrontements qui ont eu lieu entre eux, la police de l'autorité palestinienne, qui a fait de nombreux blessés, des morts, et qui ont divisé la société palestinienne, parce que pour la première fois, les frères palestiniens se tiraient dessus. Eh bien, on s'aperçoit que quand même, il y a la possibilité de manifester. Alors, on a vu des policiers avec des bâtons tapés sur des manifestants. Moi, ça m'a fait doucement sourire hein, quand j'ai vu ça, parce que je me rappelle quand même des manifestations que l'on fait en France où les services d'ordre, c'est ça qu'on appelle, déguisés en Robocop, n'hésitent pas à taper, n'hésitent pas à brûler les yeux des gens avec des gaz lacrymogènes. En France, les manifestations sont parfois très fortement réprimées, bien plus que l'on a pu voir dans ce reportage. Reportage d'Arte, et l'ambassadeur d'Israël en Allemagne, qui était là, n'a absolument pas contredit. C'est vrai que c'est un ambassadeur qui vient de quitter ses fonctions. Alors
c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de comparer des pays quand on est dans l'un et pas dans l'autre. Beaucoup de gens ne sont pas allés en Palestine. Les images qu'on envoie sont celles, en général, que les grands médias nous relaient. Qu'est-ce que tu penses, en tant que citoyen, de ce qu'on voit comme image ? Bien sûr, tu as ton point de vue qui est le tien, il est subjectif. Oui. Mais l'avantage, c'est quand même que tu y vas assez régulièrement.
Moi, je dois dire que, de plus en plus, j'essaye de ne pas trop regarder les images sanglantes qu'on nous déverse. Je suis né juste avant la Deuxième Guerre mondiale. J'y avais déjà vu l'horreur. J'ai vécu dans des pays colonisés par la France. J'y ai revu l'horreur. J'ai eu à participer à ce qu'on appelait à une certaine époque le maintien de l'ordre en Algérie. Cette guerre dégueulasse qu'on ne veut même pas encore suffisamment reconnaître avec les massacres et les crimes de guerre qu'on y a perpétrés. Et depuis 20 ans, avec notre association, nous continuons d'aller en Palestine régulièrement. Nous avons un partenaire qui s'appelle le Bethlehem Arab Society for Rehabilitation et qui s'occupe donc en priorité d'handicapés et de victimes de guerre. Le nombre de gens que j'ai vus, parce qu'on parle des morts, on ne parle que très peu des blessés. Plus de 5000 actuellement sur la bande de Gaza, dont un nombre incalculable d'enfants. Ces enfants qui vont peut-être être sauvés, qu'il va falloir soigner, qu'il va falloir rééduquer, mais qui feront de toute façon des gens à la charge de la société palestinienne future. Quand il vous manque une jambe, à l'âge de 3 mois, 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Il est bien évident qu'il y a un handicap, comme le nom l'indique. Quand il vous manque un œil, comme certains jeunes que j'aimerais peut-être bien revoir s'ils sont encore vivants, que j'ai vu être soignés après des 6 mois de coma et qui sont retournés dans leur camp de réfugiés à Gaza, ceux à qui je pense tous les jours. Il est bien évident que moi, toutes ces images me font énormément de mal, comme elles le font à tous mes amis palestiniens et à tous ceux qui se dressent contre les atrocités de la guerre que laisse faire l'ensemble de nos gouvernants. Mais pourtant, et là, je vais partir dans quelques heures pour aller travailler avec l'hôpital dont je vous parle, avec lequel nous avons déjà travaillé pendant 20 ans et que nous avons aidé, notamment pendant la deuxième intifada. Nous avons traité des gens de Gaza, des gens de Jenin, des gens de Naplouse, des gens d'Hébron. Eh bien, nous allons voir comment développer le plan d'action qui vient d'être mis en place par cet hôpital et qui est mené en partenariat avec l'UNRWA, qui est l'Office des réfugiés de l'ONU. Vous savez, ces gens qui sont sur place et qui sont généralement protégés par l'ONU, qui ont été bombardés et qui ont fait dire à M. Ben Timoun hier en passant à Gaza qu'il allait déposer des plaintes pour crimes de guerre, pour atteinte justement à la protection de l'ONU. Eh bien, ces écoles qui ont été bombardées, plusieurs, dont l'une, on nous en parlait, 45 morts dans cette population réfugiée d'enfants et de familles dans cette école protégée par l'ONU. Donc nous allons aller là-bas et nous allons voir avec eux quelles vont être les urgences parce que, comme me disait le directeur avant-hier à l'appareil, ils ont préparé plus de 40 lits pour accueillir les premiers enfants qui vont arriver, les cas les plus urgents, bien sûr. Ils ont réquisitionné d'autres bâtiments à l'extérieur pour les transformer en centres d'accueil pour les familles et les enfants blessés et pouvoir les traiter. Mais cela va se faire dans le temps. Nous travaillons à l'association médicale franco-palestinienne, nous travaillons dans la durée. Nous n'avons pas d'urgentiste. Mais nous savons que derrière l'urgentiste, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a parfois des interventions qui se font, comme elles se sont faites dans l'urgence, entre guillemets, qui a eu à Gaza, qui se sont faites et puis qui laissent le blessé sans soins derrière, parce qu'il y avait des manques de médicaments, des manques de matériel pour pouvoir véritablement correctement soigner. Et nous allons en voir, comme nous l'avons déjà eu, hein. Nous avons amputé des gens de Naplouse qui avaient été opérés. Nous les avons amputés après, parce que la gangrène s'était installée. Par manque de moyens. Bon, donc nous allons participer à ce projet qui s'inscrit dans la durée. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, nous lançons un appel aux citoyens. Nous allons avoir besoin d'argent. Et nous appelons aux dons. Tous ces dons seront versés intégralement pour les soins à ces enfants. Intégralement. Des reçus seront adressés. Et pour certains, seront même déductibles des impôts, pour ceux qui en payent. Donc nous vous demandons dès aujourd'hui, et nous développerons encore mieux, alors au retour de notre mission, cette campagne. Mais dès à présent, vous pouvez envoyer vos dons, prenez un crayon, c'est très facile. AMFP, boîte postale 81, 59 016, Lille, CEDEX. Je répète, AMFP, boîte postale 81, 59 016, Lille, CEDEX. Il faut absolument que nos citoyens, par cette volonté de véritablement donner quand même à ces enfants la possibilité de vivre, de rester avec l'espoir d'avoir un pays, la Palestine, libre et indépendante, il faut que nous leur montrons notre solidarité et nous avons besoin de vraiment les soigner. Cet hôpital, nous le connaissons depuis 20 ans. Tout le monde dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes les autorités nous connaissent. Nous savons le travail important qu'ils sont capables de faire avec des équipes qui sont spécialisées dans la prise en charge des handicaps pour enfants, notamment. Et donc, nous vous demandons de nous soutenir.
Merci Claude pour tes précisions et ta passion pour que ce peuple palestinien trouve enfin une terre de paix, de tranquillité et de vie. Merci beaucoup.
Merci à vous.